France Bleu RCFM. France
Bleu. Yeah.
Hal.
Halki.
Alors tout le monde, nous allons jouer le jeu de Top Top.
RCFM, 17h-18h, Marie Bronzy.
Top Top.
Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue pour la dernière de Toc Toc pour
la quille.
Cette... Oui, bonsoir, vous êtes là vous?
Oui, je suis là. Ça
mais
va?
C'est vendredi, donc en général vous
le
êtes là en fin de semaine, Christophe Zagalia, bonsoir.
Bonsoir.
Et en plus vous payez le luxe de faire la dernière, non mais je rêve.
C'était prévu.
Vous êtes le vernis des chroniqueurs de cette saison. Alors on peut le dire tout de suite à nos auditeurs, nous revenons dès septembre avec Toc Toc, chaque soir du lundi au vendredi, avec un invité différent chaque soir. Ce soir je suis très émue et ravie parce que ça fait très très longtemps que je désire l'avoir au micro d'RCFM. Vous connaissez mon amour, mon goût pour les arts plastiques et la peinture en particulier. Et bien ce soir nous avons l'immense chance, bonheur de recevoir un grand peintre corse. Bonsoir, qui est là?
Jean-Paul Pancrazi.
Jean-Paul Pancrazi, soyez le bienvenu. Je le disais, je suis très émue de vous avoir au micro d'RCFM parce que je suis votre travail depuis très très longtemps. Et c'est un travail qui me parle énormément, qui m'émeut, qui m'impressionne parfois. Un travail qui est étrange parce que cette peinture-là, elle vous absorbe complètement et à la fin, c'est elle qui vous regarde et c'est plus vous qui la regardez. Donc, c'est assez troublant.
C'est marrant parce que j'avais déjà dit ça me concernant. Enfin, non seulement me concernant, mais concernant
la peinture
gens.
En général.
Oui.
Oui.
Enfin, je dis, ma peinture, je trouvais que on finissait par être regardé par elle.
Mmh.
Et par être non plus le visiteur, mais...
Non plus le regardant, mais le regardeur.
Oui.
Oui.
Regardez.
Est-ce que c'est le cas des peintures qui vous touchent en général ou pas forcément?
Pas forcément. D'ailleurs, je sais même plus. Moi, c'est des vieilles peintures parce que vous savez, il y a longtemps qu'on a la disparition de la peinture est annoncée. Donc il y en a
la mort, la mort de la peinture.
La fin, oui.
Il y a plus de courant, plus de figuratif, plus d'abstraction.
Non,
il y a plus rien. Il y a plus que la peinture. En
donc,
fait, elle reste.
Moi, si vous voulez, ça. La peinture qui m'a nourri, enfin la dernière, remonte aux années 50-60, notamment les peintres américains.
Bien sûr.
Voilà.
Alors du 20 juin au 28 juillet, vous serez exposé à l'espace Oringue, qui est un très bel espace d'art contemporain. On pense à Henri, évidemment, Oringue, qui réalise ce travail. Vous avez déjà exposé là-bas. Alors à l'époque, il me semble que c'était avec Bernard Philippe, mais on en reparlera évidemment. Et puis vous avez fait le tour du monde grâce à vos peintures, ou vos peintures ont fait le tour du monde, parfois sans vous même. Et c'est un plaisir d'en parler ici aujourd'hui. Je ne sais pas combien d'œuvres encore seront exposées, mais il y en aura pas mal, parce que je crois que vous avez été très prolifique ces derniers temps.
Il
y a un peu de triche? Il y a un peu des toiles anciennes?
Non, il n'y a pas vraiment de toiles anciennes. Elles sont assez récentes, mais j'ai eu des petits problèmes de santé qui ont fait que pendant 2 ans, j'ai travaillé au ralenti, quoi, plutôt. Mais c'est assez récent quand même. Et de toute façon, je pense qu'il y aura une certaine cohérence là-dedans.
Il y aura des thématiques?
Il n'y a pas de thématiques, mais il y a des signes qui sont répétés un peu, qui se reconnaissent.
Dans la continuité de votre œuvre.
Oui.
L'acte de peindre est très physique. Vous disiez, j'ai eu quelques problèmes de santé qui ont fait que j'ai dû interrompre ma pratique.
Oui, parce que moi, je manipule beaucoup. Donc, parce que je travaille soit verticalement, puis horizontalement par terre. Et donc, il y a beaucoup de manipulations. Et là, comme j'ai des problèmes articulaires, ça devient plus compliqué. Et puis là, j'ai eu de moi. Et puis même, j'ai eu des petits problèmes un peu mentaux aussi, qui fait que j'ai eu un coup de mou.
Vous vivez à Pintadikazink. Christophe Zagali est originaire de Pintadikazink. Ça me fait très très peur. Je suis entre deux personnes.
C'est pas la famille en Kazink à vous, non?
Ben non, pas du tout.
C'est pas un village de bandits.
Non, pas du tout, pure bastiaise. Lorsque je vous ai demandé ce que vous aimiez comme musique, vous m'avez dit d'emblée, instinctivement, moi j'aime Bach. Et puis un petit peu plus tard, vous m'avez dit, j'aime la musique classique en général. Est-ce que vous peignez en musique?
Alors, je vais vous je vais vous édifier parce que Alors, il y a déjà quelques années, je mettais des cantates de Bach toute la journée. Et notamment le Magnificat, je l'écoutais 4-5 fois par jour. Et puis, je me suis rendu compte que ça m'empêchait de me concentrer sur mon travail. J'étais absolument absorbé par la musique, imprégné, et je me suis dit, il faut que j'arrête, sinon... Donc, alors après, j'arrêtais de travailler, je me mettais à un fauteuil, j'écoutais la musique. Puis quand je voulais travailler, j'arrêtais la musique. Donc,
La musique ne peut pas être, en tout cas la grande musique, une compagnie. On s'arrête et on écoute.
Moi, j'étais obligé. De toute façon, ça me...
Ça vous empêchait de travailler ?
Absolument. Vous ne pouvez pas me concentrer.
En fait. Vous a jamais influencé la musique ?
Non, je ne pense pas. De toute façon, c'est trop abstrait pour que je puisse... Mais je vais vous raconter une anecdote qui est assez troublante. Un jour, il y a un couple d'amis, de vieux amis à moi, qui viennent à l'atelier avec une personne de leur connaissance, qui était une libraire parisienne. Et il y avait dans l'atelier des grandes toiles goudronnées de l'époque. Et la dame s'arrête devant, et au bout d'un moment, elle me dit « C'est Bach ». J'ai été sidéré.
C'était Madame Irma ?
Ah, je sais pas, mais... C'est même un peu inquiétant aussi.
Et à cette époque-là, l'époque du goudron et de la terre, vous écoutiez beaucoup Bach à ce moment-là ?
Vous
l'avez toujours écouté.
C'était dans mon vieil atelier, puis ça allait très bien. J'avais dans une vieille maison, c'était pas très fonctionnel, mais on se serait cru presque à Venise. Il y avait un palier extraordinaire, et c'est là que j'écoutais la musique. Et puis c'est là que j'ai beaucoup travaillé la terre, les goudrons, les matières un peu nobles, quoi.
Vous répondez donc à la question de Christophe Zagal, il y a la musique, l'influence, même sans rendre compte, puisque cette dame avait deviné qu'il y avait du Bach sous le goudron ou sur le goudron. Le Magnificat, le voici, on va s'arrêter de vivre pendant 3 minutes 27. lecture du Magnificat dirigé ici par Nikolaus Arnoncourt et j'espère qu'on vous a fait plaisir, Jean-Paul Pancrate.
Énormément.
On n'a plus rien fait. Comment peindre? C'est pas possible. On écoute, on arrête de peindre et ouais. On reprend éventuellement ses outils. 17h19 minutes, l'invité mystère.
Toc toc. L'invité mystère.
Cher invité mystère, bonsoir.
Bonsoir.
Et merci pour votre patience.
Bonsoir.
Alors voilà, il va falloir lui poser des questions, Jean-Paul, pour deviner de qui il s'agit. Mon Dieu, quelles questions pourrions-nous lui poser? Homme ou femme?
Voilà, est-ce que c'est un homme ou une femme?
Un homme.
Un homme.
Un homme. Est-ce qu'on se connaît bien?
Un peu.
Pardon?
Un peu.
Un peu.
Un peu. On se voit ou on se tutoie?
On se tutoie.
Ah.
Vous vous êtes toujours tutoyé?
Je crois, oui.
Oui.
On se connaît depuis longtemps, alors?
Oui.
Combien d'années?
Une cinquantaine d'années.
Ah, d'accord. Voilà qui restreint le...
le champ des possibles.
Donc, tu fais pas de la peinture par hasard?
J'essaie de peindre, mais c'est un petit peu compliqué.
Tu fais pas de la poésie?
J'ai essayé aussi. C'est pas mal en poésie. C'est pas mal comme poète, mais bon.
Tu as été édité?
Oui.
Ah bon? Est-ce que vous êtes un artiste, finalement?
On peut dire ça.
Mais vous avez compris que tout ce qu'il tente, il n'en est pas vraiment satisfait. Hein. C'est ce qu'on comprend.
Tu n'as pas écrit un livre qui s'intitulerait Java, par exemple?
Non, je n'ai pas écrit. J'ai écrit un tango, mais pas la Java.
Un tango, mais pas la Java.
Ah,
vous pensiez à Antoine?
Je pensais à Antoine Graziani.
À Antoine Graziani, oui.
Donc c'est pas lui?
Ça n'est pas lui.
Mince alors.
Même si...
C'est peut-être Bernard Philippe.
Peut-être. Bonsoir Bernard Philippe.
Oui, bonsoir.
Salut Bernard, merci d'être avec nous.
Oui.
J'ai compris qu'il allait sur la piste Antoine Graziani assez vite. Et oui, parce que vous avez demandé, est-ce que tu as été édité? Est-ce que tu fais de la poésie? Vous vous êtes rencontrés
ensemble.
Eh oui, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il y a des extraits dans votre livre, notamment dans Fragments. Lorsque vous vous rencontrez, c'est quoi, en classe de 6e?
C'est ça, en 61, ça fait quelques années.
C'est effrayant.
Faut pas le dire.
58 ans.
Vous devenez copain tout de suite ou ça a pris du temps?
Non, on était plutôt copain. Mais lui, il jouait plutôt baby foot. Il était meilleur que moi, c'est tout. Il était de Bastia. Il connaissait les filles pleurs du baby foot.
Il était moins paysan que vous, c'est ça que vous voulez dire?
Moins plouc.
Moins plouc que moi, oui.
Vous qui êtes originaire, Bernard Philippe, de Tox.
Oui, un petit village.
Un petit village, qui donnera d'ailleurs le nom du collectif Tox.
Oui, mais là on a commencé à travailler déjà.
Là c'était donc, sérieux.
Oui.
Avec Antoine Graziani, justement, Ange Letch, Jean-Paul Pancrate et Jean-Baptiste Philippe.
Oui.
Mais avant ça, racontez-nous cette classe d'art plastique.
Avant ça, on était à la section artistique dans les années 67, 68, 69. Ben, on était les meilleurs, c'est tout.
Il n'y avait que nous.
Que nous, les autres.
Pas d'autres.
Quel type d'enseignement c'était l'enseignement de José Laurenti?
Non, c'était bien parce qu'il avait...
C'était un peu classique quand même.
Ouais, c'était classique mais il avait ouvert les vannes. L'enseignement était très classique mais on faisait ce qu'on voulait, c'est bien. Oui,
on avait les moyens de travailler.
Voilà.
Mais surtout qu'il n'existait rien avant, donc...
Non, ça c'était une très bonne idée qu'il avait eue, et puis qu'il a réussi à mettre...
En place,
et puis, je crois que c'est la seule l'esprit ce qu'il disait, en France, il n'y avait pas d'autres...
Mais oui, non, il n'y avait pas d'autres sections artistiques comme celle-ci.
C'était une avant-garde. Il était même à l'avant-garde de l'enseignement de dessin. Le dessin qu'on appelait à l'époque le dessin, qui est devenu l'art plastique en même temps, après.
Bien sûr, assez vite. Et qu'est-ce que vous faisiez, alors, dans cet enseignement classique? On imagine que vous dessiniez beaucoup.
Oui, non.
Il n'y avait pas trop de place pour l'imagination ou l'expérimental.
Bon, on avait quand même un peu de liberté.
C'est de la peinture.
De la peinture?
Oui, on a fait la mort de Savoie.
Non, mais on a quand même fait d'autres techniques. On a expérimenté la mosaïque, la poterie, tout ça. Bon. C'est intéressant aussi.
Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait la mort de Sardanapale avec Jean-Paul. On était deux sur la mort de Sardanapale. Je me souviens de ce nu en premier plan. On avait du mal.
Non, de nuit, c'est moi qui l'avais peint.
C'est lui qui avait du mal. Hein.
Non. Il y avait une main qui était difficile à peindre.
Bon, ça se chamaille encore.
Du goudron après.
Tu avais mis du goudron après, il a dit, hein, quand même. Ça se chamaille encore des années après. Mais c'était sur un format immense, j'imagine.
Et pas mal.
Et le vrai tableau, il fait 5 mètres sur 4.
C'est ça, ouais.
Et au moins, on avait dû le réduire de moitié, donc 2 mètres sur 2 mètres et demi.
Ouais, ce qui est immense, hein, pour un tableau réaliste, hein. Et très, très compliqué.
Ah oui, parce qu'il y avait de tout là-dedans. Hein. Des chevaux, des animaux,
des renards chats.
Pas encore, mais...
qu'est-ce qui vous décide à vous regrouper et à faire ce collectif à un moment donné?
C'est parce que c'était l'époque des groupes.
Ouais.
Il y avait beaucoup de groupes d'artistes. C'était dans les années 70. Ça pullulait, surtout à Paris.
Ouais.
Et donc, il semblait être une force. Mais il y avait une théorie. Les autres avaient des théories. Et bon, nous, c'était juste un agglomérat. Quoi.
Non, je me souviens d'un groupe qui s'appelait Honneur de la peinture, comme Honneur de la police. Ça,
et pourquoi le nom de votre village, Bernard Philippe? Pourquoi le nom de...
Parce que c'était le leader, c'est tout.
Vous êtes le patron.
C'était le plus fort, c'était le patron.
C'était le patron, mais c'est tout, le mot toc, c'est plus facile à écrire que si vous l'avez. Sur
l'affiche,
ils vont me mettre
Tox. Et oui, c'est vendeur. Bon,
c'est le Varège, c'est le village dont vous êtes originaire, hein,
oui.
Jean-Paul.
Ma mère est de ça.
Oui. Non, mais sérieusement, parce que c'était trois lettres très explicites, c'est pour ça que vous aviez choisi Tox.
Ou c'est Tox qui nous a choisi.
Qu'est-ce que vous faisiez à l'époque? Chacun travaillait de son côté et puis vous réunissiez pour discuter. Alors certains théorisaient, c'est ce qu'on a pu comprendre. D'autres faisaient.
Vous n'étiez pas beaucoup.
Hein. Vous n'étiez pas très très nombreux. Mais alors du coup, vous avez donné des performances, des expositions. Qu'est-ce qui s'est passé une fois que vous avez créé ce collectif?
On a exposé, je crois, à la Maison de la Culture de Rastia, qui est devenue la route.
Ouais, deux fois, on a exposé là. Les expos, elles doivent se compter sur le doigt d'une main, parce que je n'ai plus souvenir d'autres.
Quel regard vous portez, Bernard, sur le travail de Jean-Paul Pancrati, sur son œuvre?
Bon, il est bien. Non, il a, dans sa peinture... Comment dire, il y a une tranquillité poétique et rigoureuse.
C'est angoissé.
Non, c'est quelqu'un qui travaille bien, comment dire. En plus, que je le connais depuis 60 ans maintenant, c'est un bon peintre. Avec ses matières, il construit une mémoire. On devrait dire une mémoire éblouie, mais il va comprendre que je cite.
Vous m'avez dit hors antenne, outre l'amitié qui nous lie depuis tant d'années, si vous me demandez comme ça, brûle pour point, je vous dirais que la peinture de Jean-Paul, elle est magique.
Oui, bien sûr. Et j'espère que la peinture est magique, sinon, c'est pas la peine de peindre. Mais c'est bien, j'ai dit ça moi.
Oui, vous m'avez dit ça tout à l'heure. Vous m'avez dit autre chose aussi, mais je sais pas si je vais le répéter.
C'est-à-dire.
Il est capable de tout, alors. Vous pouvez répéter.
Qu'est-ce que j'ai dit?
Et vous m'avez dit, il me taquine depuis des années, je le taquine moi-même depuis des années.
Voilà. Il me fait chier depuis des années.
Plutôt, oui, mais j'osais pas le répéter. Et je le fais chier depuis des années, c'est ce que vous avez dit textuellement. Lorsque vous,
vous avez tout dit.
Voilà. Lorsque vous avez souvent exposé ensemble, et il y a une exposition qui a à peu près 10 ans, je crois, à l'Espace Oringue, ouais. Où vous exposiez tous les deux, vos peintures, votre pratique artistique est extrêmement différente. Comment le public avait réagi à cette exposition?
Comment le public réagit?
Vous n'en savez rien.
Oui, bien sûr. Je crois.
Mais ça fonctionnait ensemble.
Allô?
Oui.
C'est séparé quand même.
Oui.
Mais c'était séparé.
Il fallait
J'avais la salle muséale et Bernard le hall d'entrée.
Voilà, c'est ça. Ça a toujours vécu.
Ah, je me régale. Bernard, Philippe, merci d'avoir été avec nous. On vous embrasse très très fort.
Mais moi aussi.
On vous retrouve au Canada.
Non. J'essaie.
Dans votre cabane.
Dans le hall, alors. Je m'en vais au Canada. Moi.
Dans votre cabane au Canada.
Bien sûr.
Et on vous embrasse très fort et on espère que vous exposiez un de ces jours, voilà, pour pouvoir voir votre travail et puis vous recevoir au micro d'RCFM. À bientôt. Au revoir.
Merci. Au revoir.
Mais vous êtes des chenapans quand vous vous retrouvez ensemble. Vous retrouvez vos 17 ans, là.
Ouais, toujours.
C'est drôle, on sent cette complicité, et puis cette magagne, cette...
Ouais, ça a toujours été comme ça.
C'est pareil avec Antoine Gradiani?
Ouais, c'est pareil. Ouais.
Il y a la même complicité?
Ouais.
Des amis de tant d'années.
Et puis, je veux dire, on vieillit toujours dans l'espièglerie, donc c'est bien.
Ben ouais, Picasso a dit « J'ai mis des dizaines d'années pour peindre comme un enfant ». Et Jean-Paul Pancrade, il nous dit « Voilà, ben, j'ai mis des années pour redevenir un enfant ». On écoute Georges Brassens, parce que je crois que vous avez grandi en écoutant Georges Brassens, c'est vrai?
Oui, absolument.
Qui écoutait Georges Brassens à la maison?
Ben, moi, j'étais le plus jeune de la fratrie, donc on avait un vieil électrophone et beaucoup de disques de Brassens. Donc je connaissais toutes les chansons de Brassens. Et je me rappelle même sur les... bande de l'école, j'étais à côté de Gérard Paulette, le guitariste, et on avait 12 ans.
Professeur de Christophe Zagage. Il y a un lien.
On connaissait par cœur toutes les chansons de Brassens à l'époque. Et on se les chantait entre deux. Mm. C'était super.
Et l'amour des mots de la langue française, elle vient un peu de là?
Je pense.
Sûrement.
Oui. Plus la poésie que j'ai lue. Parce que, bon, moi, quand j'étais gosse, on n'avait pas de télé, on n'avait que la lecture comme principal loisir, c'est bien. Ça n'existe plus. Donc,
qui vous lisiez comme poète?
Mon pote c'est Rimbaud, mais les poètes habituels, Baudelaire, tout ça, ou René Char,
Plus contemporain, mais le préféré c'est Rimbaud.
Oui.
Arthur Rimbaud. Qui a été très prolifique en très peu d'années de pratique pour le coup.
Absolument, ouais, parce que.
Mais qui nous a livré beaucoup, beaucoup de poèmes absolument incroyables. On écoute Supplique pour être enterré à la plage de Sète. Georges Brassens, c'est parti pour 7 minutes.
La Camarde qui ne m'a jamais pardonné d'avoir semé des fleurs dans les trous de son nez me poursuit d'un zèle imbécile. Alors cerné de près par les enterrements, j'ai cru bon de remettre à jour mon testament, de me payer un codicille. Trempe dans l'encre bleue du golfe du Lion, trempe, trempe ta plume, oh mon vieux tabellion, et de ta plus belle écriture. Note ce qu'il faudrait qu'il advint de mon corps, lorsque mon âme et lui ne seront plus d'accord, que sur un seul point, la rupture. Quand mon âme aura pris son vol à l'horizon, vers celle de Gavroche et de Mimi Pinson, celle des titis, des grisettes, que vers le sol natal mon corps soit ramené dans un sleeping du Paris Méditerranée, terminus en gare de Sète. Caveau de famille, hélas, n'est pas tout neuf. Vulgairement parlant, il est plein comme un œuf. Et d'ici que quelqu'un en sorte, il risque de se faire tard. Et je ne peux dire à ces braves gens, poussez-vous donc un peu, place aux jeunes en quelque sorte. De la mer à deux pas des flots bleus, creuser si c'est possible un petit trou moelleux, une bonne petite niche auprès de mes amis d'enfance, les dauphins, le long de cette grève où le sable est si fin, sur la plage de la corniche. C'est une plage où même à ces moments furieux, Neptune ne se prend jamais trop au sérieux. Ou quand un bateau fait naufrage, le capitaine crie, je suis le maître à bord, sauve qui peut le vin et le pastis d'abord. Chacun sa bonbonne et courage. Et c'est là que jadis, à 15 ans révolu, à l'âge où s'amuser tout seul ne suffit plus, je connus la prime amourette auprès d'une sirène, une femme poisson. Je reçus de l'amour la première leçon, avaler la première arête. Déférence gardée envers Paul Valéry, moi l'humble troubadour sur lui je renchéris. Le bon maître me le pardonne, et qu'au moins si ses vers valent mieux que les miens, mon cimetière soit plus marin que le sien, et n'en déplaise aux autochtones. Cette tombe en sandwich entre le ciel et l'eau ne donnera pas une ombre triste au tableau, mais un charme indéfinissable. Les baigneuses s'en serviront de paravent pour changer de tenue, et les petits enfants diront chouette un château de sable. Est-ce trop demandé sur mon petit lopin? Plantez, je vous en prie, une espèce de pin, pin parasol de préférence, qui saura prémunir contre l'insolation les bons amis venus faire sur ma concession d'affectueuse révérence. Venant d'Espagne et tantôt d'Italie, tout chargé de parfums, de musique jolie, le Mistral et la Tramontane. Sur mon dernier sommeil berceront les échos de Villanelle un jour de Fandango, de Tarentelle, de Sardane. Et qu'en prenant ma butte en guise d'oreiller, une ondine viendra gentiment sommeiller, avec moins que rien de costume. J'en demande pardon par avance à Jésus. Si l'ombre de ma croix s'y couche un peu dessus, pour un petit bonheur posthume. Pauvre roi Pharaon, pauvre Napoléon, pauvre grand disparu gisant au Panthéon, pauvre cendre de conséquences. Vous envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances. Envirez un peu l'éternel estivant qui fait du pédalo sur la vague en rêvant, qui passe sa mort en vacances.
Supplique pour être enterré à la plage de Sète, Georges Brassens. Jean-Paul Pancrate, notre invité, la connaît par cœur. Je rappelle que vous exposez du 20 juin au 28 juillet à l'Espace Oringue, à Patrimonio. Cette chanson, alors bien sûr, c'est l'enfance, vous l'avez dit, vous écoutiez Brassens tout le temps, on boucle à la maison, vous connaissiez les chansons par cœur. Mais il y a autre chose, c'est que dans cette chanson, il y a tout ce que vous aimez, les amis, l'amour, les femmes, l'humour.
Il y a tout, et puis je trouve que c'est une merveille, c'est sa plus belle chanson pour moi, parce qu'elle est venue plus tard que celle que j'écoutais quand j'étais gosse. Elle est quand même venue plus tard, dans les années 70, je ne me rappelle plus.
Mais c'est-à-dire que quand on est tout jeune, on
pense pas à son
enterrement.
Du début jusqu'à la fin, elle est extraordinaire. C'est des morceaux de bravoure qui se succèdent.
Et puis elle est très drôle.
Ah ouais, elle est drôle, il y a tout.
Est-ce que lorsque vous écoutez Brassens comme ça, comme vous l'avez beaucoup entendu enfant, il y a un peu de nostalgie ou non? Vous êtes toujours bercé, ébloui par les mots et par, comme vous disiez, les moments de bravoure?
Mais j'écoute moins maintenant parce que j'ai plus de... Il m'arrive de le relire parce que j'ai un livre avec des chansons et j'ai chanté moi, surtout. Mais bon, bien sûr, si je peux l'écouter, je l'écoute toujours avec le même bonheur, parce que je trouve qu'il est extraordinaire, que il a été mal compris, parce que moi, je pense que c'est un immense poète, c'est pas seulement un chanteur. Et il y avait des gens qui ne pensaient pas ça.
Lui-même regrettait de ne pas être un grand poète. Il disait, moi j'écris seulement des chansons, alors que j'aurais adoré être un grand poète.
Ouais, mais moi je pense qu'il l'est quand même et que c'est de la modestie. Ça.
Marie parlait de l'enfance, le dessin c'est venu comment?
Je ne sais pas comment c'est venu, mais dès que j'étais tout petit, je dessinais. Je me rappelle que... un truc qui me... Mon père avait des vieux dictionnaires, Larousse. Donc, il y avait des photos en noir et blanc, hein, d'ailleurs. Et je m'amusais à dessiner ce que je voyais sur des photos. Notamment, il y avait des bateaux. Ça me plaisait bien de dessiner d'autres trucs comme ça. J'ai toujours dessiné. Et la couleur est venue plus tard. Enfin, pas tellement plus tard, mais après, j'ai commencé à dessiner avec des crayons de couleur. Des paysages imaginaires. Enfin, pas tellement, parce que des choses que je voyais, que je répercutais. J'aimais dessiner l'eau, les morceaux de bois, des trucs comme ça. Et après, véritablement, quand je me suis trouvé en face d'une photo d'un tableau, j'ai été émerveillé. Je crois que ça doit être peut-être un tableau de Cézanne ou un truc, ou Monet, je ne sais plus. Mais c'était tellement merveilleux qu'après, j'ai eu envie de peindre. Voilà.
De faire la même chose, un tableau de Monet ou de Cézanne, dans un livre d'art?
Je ne sais plus.
Vous ne savez plus?
Non, mais c'était comme c'est vieux. Hein, pas...
Donc très jeune, vous vous êtes dit, j'ai envie d'être peintre?
Oui, après j'ai vu... à la section artistique, j'étais pas tout de suite. Puis je voyais que ce que faisaient les élèves, et ça me plaisait. J'ai dit, mince, je vais y aller. Et donc, je suis allé, là, j'ai commencé à peindre.
Mais c'était pas un métier, j'imagine, pour les parents, peintre.
Non. Non, non, c'était passion, loisir, ce qu'on veut, mais bah, certainement pas un métier. Enfin, pour les parents, c'est sûr.
Vous avez exercé un autre métier ou jamais?
Bah, j'étais fonctionnaire pendant quelques années. En fait, l'idée d'avoir un métier, ça me paraissait sordide, à l'instar de Rimbaud, parce qu'il avait dit la même chose. Bon, c'est personnel, hein, bon, c'est de l'idée d'avoir un métier. Bon, et donc, l'administration, c'est une espèce de nébuleuse douillette. Donc,
qui vous permettait de peindre.
Oui, puis après, ouais. Non, mais j'ai rapidement abandonné, parce que j'ai vu que, bon, peinture commençait à prendre, j'ai arrêté.
Vous parlez de cours, d'élèves, la transmission. Est-ce que vous avez eu envie, à un moment donné, de transmettre votre savoir, votre passion ?
Je n'ai pas de savoir, je ne pense pas avoir un savoir. Je crois que j'ai une peinture, ça ne peut pas se transmettre. Je ne suis pas un pédagogue. Bernard Philippe, il a toujours été enseignant. Bon, ce n'est pas pareil, c'est un pédagogue. Moi, je n'ai rien à... À apprendre, je peins comme un cochon, je ne vais pas leur apprendre à peindre comme des cochons. Par exemple. Bon, mais non, c'est difficile.
Mais vous, vous
je
dites...
peux discuter, ça, mais pas inculquer quelque chose.
Vous dites que la peinture ne se dit pas, vous l'avez dit dans une interview, vous dites que la peinture ne se dit pas, il faut qu'elle se voit, il faut venir voir. C'est dur de parler de ce qu'on fait. Vous dites aussi, j'ai arrêté de réfléchir. Je fais, je peins.
Mais, ah non, c'est-à-dire qu'à un moment donné, j'ai théorisé. Et ma démarche s'est construite sur le rejet. Et j'ai trouvé que... J'ai commencé par trouver que je faisais une peinture stupide. C'était des compositions à l'époque, de style École de Paris, tout ça, bon... Et j'ai laissé tomber des tas de trucs. Et j'ai beaucoup simplifié. Et après, c'est devenu presque austère. Et parfois un peu rigide aussi. Mais
il fallait en passer par là.
Oui, il fallait se débarrasser de... Après, bon, si vous voulez, imperceptiblement, d'année en année, ça... peut basculer vers l'assentiment. Et donc, c'est la différence qu'on peut voir. Et justement, il y a 3 ans, j'ai fait une grande exposition à la Villa Tamaris. C'est un centre d'art contemporain à la Seyne-sur-Mer. Mm-hmm. J'avais fait une mini rétrospective. Donc, il y avait des travaux qui s'étalaient sur 20 ans. Et donc, j'avais investi 8 salles. Et ça avait été fait en sorte qu'on commençait par les plus anciennes. Donc, ces toiles, où la plupart, il y avait une salle où il n'y avait que des toiles en noir, enfin, beaucoup, en zinc, des trucs sans peu de peinture, avec du goudron, enfin. Donc, c'était un cheminement, c'était mon cheminement, et jusqu'aux derniers travaux, dans les dernières salles, qui étaient autres, bien moins austères.
Donc un commencement avec pas, vous dites avec du zinc, avec du goudron, sans couleur, enfin même si le noir est une
couleur. Il y avait beaucoup de terre naturelle.
D'accord. Donc, mais ça c'est toujours ça encore, la terre est encore là.
Elle est encore là, mais là elle est recouverte de peinture la plupart du temps. Mmh. Ouais. Il peut m'arriver de faire un truc avec la couleur, la terre apparente uniquement.
Jean-Paul Pancrade, vous prenez cette terre, et ça depuis toujours, vous utilisez des liants, évidemment. Oui. Il y a eu le goudron, vous l'avez évoqué, et puis la peinture. Mais la peinture avec des pigments, c'est vous qui faites vos mélanges vos...
Non. D'abord, j'ai réduit considérablement. Je n'emploie plus que... il y avait les 3 couleurs primaires. Donc, le jaune, quand j'utilisais la terre naturelle, le bleu et le rouge, et plus le blanc et le noir comme ponctuation, ou toile blanche ou noire, mais bon. Donc, j'ai des grands pots de 5 kilos, et donc, je ne peins plus avec des petits pinceaux, je ne peins plus au pinceau, j'ai plus le geste traditionnel du peintre. J'étale,
plus de couteau, plus de couteau, plus
non,
de spatules.
Non, c'est des grandes spatules. Ouais. C'est pour faire de grands aplats de peinture. Quoi. Mm-hmm. C'est comme ça que. Et puis après, je fais des empreintes à l'intérieur.
Il y a des empreintes.
Dans la matière.
Vous grattez. Il y a les écritures aussi. Il y a les écrits.
L'écriture, c'est primordial. Enfin, c'est primordial. C'est comme le reste. C'est une autre matière. Et c'est une matière un peu immatérielle. Ça donne un côté immatériel. Mais j'avais vu il y a longtemps, aussi très longtemps, des dessins extraordinaires de Léonard de Vinci. Et ils étaient encore plus extraordinaires parce qu'il y avait des annotations. J'avais trouvé que ça donnait une dimension super autre.
Vous savez ce que dit Léonard de Vinci ? Il dit « La peinture est une poésie qui se voit au lieu de se sentir, et la poésie est une peinture qui se sent au lieu de se voir.
Hein ».
Comment mêler les mots et la peinture ? On s'est intéressé à une année, et vous allez nous expliquer pourquoi.
Toc Toc, c'est son année.
1992, que se passe-t-il ? Ça y est, vous vous sentez peut-être un peu plus légitime qu'auparavant. C'est la première exposition à l'extérieur de notre île. Vous traversez la mer.
Oui, c'est la première exposition personnelle. J'avais déjà participé à des expos collectives. Et là, j'avais déjà, 2 ans auparavant, participé à une expo dans cette galerie. C'est la galerie Annie Lagier qui n'existe plus.
Hein.
Et donc... ils m'ont proposé de faire une expo en 92, donc c'était très bien. C'était une très belle galerie, c'était un très bel espace, tout en étages, il y avait 3 étages.
Donc ce qui vous a plu, c'est le fait de pouvoir montrer votre travail, d'avoir l'espace suffisant, ou est-ce que c'est, tiens, peut-être que tu es légitime, si on te demande à toi tout seul d'exposer?
Et puis, je veux dire, il faut bouger, il faut sortir, on ne veut pas rester dans son coin. Là, on dit qu'il n'a pas de frontières, donc c'est ce qu'il faut. Même si parfois c'est compliqué, mais bon, après, c'est parti de là. Après, en 93, j'ai exposé dans une galerie à Marseille. En 94, dans une galerie à Paris. Et ensuite, après, j'ai signé des contrats, si vous voulez, avec des galeries. Et j'ai exposé tous les 2 ans, donc après, c'est parti comme ça. Voilà.
Donc là, ça y est, c'était un vrai métier.
Oui, oui.
Vous viviez de ça.
C'était plus bien à l'époque.
Mais aujourd'hui, ça va.
Ouais, vous êtes bien aujourd'hui, côté. C'est plus compliqué maintenant, hein, le marché.
Oui.
Le marché de l'art. Moi, depuis 2009, c'était pas anodin, 2009, parce que je sais qu'il y a 4 ou 5 galeries avec lesquelles je travaillais qui ont fermé
bien
pour
sûr.
Raisons économiques. Donc
mais enfin, on annonçait la mort de la peinture aussi, regardez.
Oui, il y a de la résistance.
Il y a de la résistance. Jean-Paul Pancrati, donc, qui expose du 20 juin au 28 juillet à l'espace Oringue à Patrimonio. Cette année, il fête ses 100 ans, c'est Pierre Soulages. Donc je me suis dit, c'est la dernière de Toc Toc, c'est vraiment l'occasion, vous êtes là, notre invité, l'un des plus grands peintres corse, Jean-Paul Pancrati, et je me permets donc de rendre hommage à Pierre Soulages avec 3 petits extraits. Il est au début de sa carrière, au milieu de sa carrière et à la fin de sa carrière, dans ce qu'on entend. C'est un peintre, un artiste que vous appréciez ?
Absolument, oui. J'ai toujours aimé Soulages, et je trouve que ses dernières œuvres, qui sont pratiquement des monochromes, avec juste des traces de pinceau, de noir. Je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment un noir parlant, profond. C'est toute la couleur là, dans le noir.
Chaque fois qu'on commence une toile et que la toile commence à se développer, on croit que ça y est, que ça va faire une toile. Et puis évidemment, c'est la catastrophe quelquefois. Mais ça n'empêche pas l'envie de recommencer. Enfin, pour l'instant.
Ce qui compte pour moi, c'est le reflet sur l'état de surface. Quand c'est lisse, comme ça, c'est une autre lumière que j'obtiens que lorsque je le passe avec ça. Quand il est comme ça, j'ai des stries qui se produisent, plus ou moins profondes, qui font vibrer la lumière. Et c'est là-dessus que se fonde ce que je fais.
Ma passion pour le noir, d'autres l'avaient eu avant, puisque dès 350 siècles, les hommes descendaient dans les endroits les plus obscurs de la Terre, dans les grottes. Il n'y a pas plus sombre qu'une grotte. Et ils allaient peindre là avec du noir.
Qu'est-ce qui vous parle le plus dans ce que nous venons d'entendre de Pierre Soulages ? Les hommes préhistoriques, la lumière, selon la matière que l'on utilise.
C'est ce dont j'avais parlé un peu avant, là, l'estrie, tout ça, oui. Ces étoiles-là et cette lumière, donc que le noir est des révélateurs de lumière, c'est ça qui est beau.
Dans votre pratique également, la matière, les différentes matières, lorsque c'est gratté, creusé ou juste une empreinte, forcément modifie la lumière. Donc c'est très intéressant pour le peintre que vous êtes, même si vous utilisez la couleur en l'occurrence, il y a quand même de la lumière.
Oui, et puis j'ai même fait d'autres choses. Parce qu'en fait, ce rejet, cette théorie du rejet, en fait ça accorde encore plus de liberté. J'avais fait... Et donc, le regard se promène un peu partout et choisit des choses comme ça qu'il rencontre par hasard. J'avais allé pour faire couper des planches de contreplaqué dans un magasin de bricolage. Le gars qui était en train de casser une vitre à double vitrage d'une porte, j'ai trouvé ça extraordinaire. Je lui ai demandé ce qu'il allait en faire. Il m'a dit, je vais la jeter. Je dis, de la prends. Et j'ai travaillé, j'ai mis des écrits... sur du papier blanc derrière, avec des photos de ma femme sur les impacts, certains impacts. Puis j'ai fait faire un cadre, et après, il y avait... Parce qu'il y avait des cassures de côté et de l'autre. Et avec la lumière, ça faisait des dessins de lumière extraordinaires, sur les brisures.
Donc on peut peindre avec la lumière également.
Absolument.
Ouais, c'est retenir la lumière. Jean-Paul Pancrat dit, on va finir avec une citation de Picasso. Tiens, pourquoi pas. Je suis très citation ce soir, je sais pas ce qui m'a pris. Un tableau ne vit que par celui qui le regarde.
Oui. Parce que si vous voulez acheter ou garder quelque chose pour vous, vous le mettez dans votre cave, il n'existe plus. Et il faut qu'il soit regardé. Ouais. Donc, moi, je comprends. Il y a des collectionneurs, ils sont obligés de montrer ce qu'ils ont. Sinon, leur collection ne vaut rien. Enfin, je veux dire, il n'y a plus que leur pauvre regard. Il faut que le maximum de gens voient.
Quelle est votre plus grande fierté ?
Une fierté, j'en ai pas.
Oui, c'est d'être ici ce soir, non ?
Faire la manière de Toc Toc de la saison.
Vous êtes trop humble pour
non,
avoir la moindre fierté.
Non, je vois pas. Je vais me réfléchir. Non, je sais pas.
D'avoir pu vivre de votre art, d'avoir pu continuer envers et contre tout ?
Je sais pas. C'est pas la fierté, je sais pas trop. Je me prenais un peu au dépourvu parce que...
De connaître Henri Oringue ? J'ai plusieurs propositions.
bien sûr. Moi, je suis content, surtout heureux de connaître des gens comme ça. Plutôt que fier.
Alors justement, je le rappelle, vous exposez du 20 juin au 28 juillet à l'espace d'art contemporain Oringue, à Patrimonio. Évidemment, c'est un espace très important qui permet au public d'aller voir les œuvres, puisqu'on vous l'a dit, la peinture ne se dit pas, mais elle se voit. Merci beaucoup, Jean-Paul Pancrat, d'avoir été notre invité. Je suis très heureuse de vous avoir
reçu. C'était très agréable.
Ah, ben, je vous remercie. Merci Christophe Zagagne.
Merci Marie.
Et merci à Serge Jakubowski qui réalisait cette émission. Au revoir à tous. On se donne rendez-vous en septembre.
France Bleu RCFM.